Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Elle en Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayennaise. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Claire Duverger, qui a tout juste 30 ans, vient d'obtenir la semaine dernière sa 3e médaille de bronze au championnat de France Handifly de parachutisme. Dans cet épisode, Claire nous partage un bout de sa vie avec son histoire, sa passion pour le parachutisme et sa persévérance face aux difficultés de la vie et à son handicap. Un témoignage inspirant quand on veut sortir de sa zone de confort, car comme le dit Claire, on est parfois à un oui de changer sa vie. C'est tout cela que vous allez retrouver dans ce nouvel épisode d'Elle en Mayenne. Merci beaucoup et bonne écoute. Eh ben bonjour Claire.
Bonjour.
Bienvenue au micro d'Elle en Mayenne. Merci de m'accueillir chez toi. Et puis merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Pour débuter les épisodes d'Elle en Mayenne, souvent je demande aux personnes de se présenter en quelques mots de la manière dont tu le souhaites.
D'abord merci à toi de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Claire Duverger, j'ai 30 ans, je suis lavalloise, enfin originaire d'Entrammes. Et lavalloise depuis 2019, enfin voilà, mayonnaise à 100% du coup. Je suis handi de naissance, j'imagine qu'on en reparlera un petit peu ouais. Après. Et je suis sportive également. Donc voilà, et puis je vais laisser un peu de suspense pour...
D'accord, pour la suite, très bien. Merci pour cette présentation. Donc effectivement, si je pensais qu'on allait... on peut démarrer notre discussion par un peu le début de ton histoire. Donc voilà, on ne se connaît pas forcément personnellement, mais je sais que voilà, tu partages... tu as fait une conférence, tu partages ton histoire par d'autres biais. Donc tu me dis si je dis des bêtises, mais donc si j'ai bien compris, donc tu es née prématurée.
Exactement.
Et donc tu es en situation de handicap depuis ta naissance.
Oui, c'est d'accord. Ça. En fait, je suis née du coup à 6 mois de grossesse, donc grande prématurée. Pour rentrer dans les termes techniques, je suis infirme moteur cérébral pour l'ancien terme. Maintenant, ils disent paralysie cérébrale, mais moi j'ai gardé mes habitudes. Et du coup, moi, c'est la partie moteur du cerveau qui a été touchée. C'est-à-dire qu'en fait, dû à la prématurité et à une naissance compliquée, en fait, j'ai manqué d'oxygène. Et donc, voilà, c'est la partie moteur du cerveau qui est touchée. Donc, je suis amputée depuis toujours.
D'accord.
Et voilà, mais ça ne m'a pas empêché de faire plein de trucs. Au contraire, et même de devenir sportive, ce qui n'était pas...
Ce qui n'était pas gagné d'avance.
Pas,
ok. Comment est-ce qu'on se construit? Comment on grandit quand on est en situation de handicap? Est-ce que je suppose que le dépassement de soi, le regard des autres est d'autant plus important?
Oui, je pense évidemment que ça fait partie de la manière dont je me suis développée. Après, j'ai eu la chance d'avoir et d'avoir toujours une famille très proche et qui a toujours fait le maximum pour me permettre d'avoir une vie la plus normale possible, tout en niant jamais que voilà, je suis handi. D'ailleurs, je suis pas du genre à dire personne en situation de handicap, moi je vais plus vite et je
d'accord, ça marche.
Parce que ça me choque pas. Après, voilà, tant qu'il y a du respect, on n'est pas toujours obligé d'utiliser les grands mots, mais voilà, mes proches ont toujours fait le maximum pour me dire écoute, on va tout faire. On ne dit pas que ce sera facile, on ne dit pas que tu pourras tout faire, mais en tout cas, on va essayer. Donc que ce soit, et c'est vrai qu'il a fallu se battre un peu pour chaque étape de départ pour aller à l'école, parce que j'ai été scolarisée en milieu ordinaire.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, ok.
Donc voilà, on va dire qu'il faut batailler un peu plus, mais c'est aussi ce qui donne le petit croustillant au quotidien, parce que du coup il arrive des choses pas toujours, qui n'arrivent pas à tout le monde, et c'est le côté plutôt chouette, mais je dirais que oui, après, tu parlais du regard des autres, évidemment, c'est quelque chose qui a été très présent. Quand on est enfant, c'est pas facile. Après, moi, j'ai la chance, je pense en tout cas, que ce soit un handicap de naissance. Et du coup, en fait, j'ai pas eu à m'habituer. Parce que ça a toujours été comme ça. Comparé à des gens qui vont avoir un accident et pour qui ça peut-être être difficile de s'habituer à une nouvelle situation, justement. Moi, en fait, mon quotidien, ça a toujours été avec mon fauteuil. Donc toute petite, ça m'a jamais coûté de le voir le matin parce que il a toujours été là, donc il me réveillait, voilà, il y avait le fauteuil à côté du lit. Après, oui, quand on est enfant, forcément, on rêve un peu d'être comme tout le monde, de marcher, je rêvais de courir dans la neige, des trucs et puis au final, assez vite, je pense, je me suis dit, bah en fait, voilà, c'est comme ça. C'est pas, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit, je l'accepte. En fait, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure du quotidien. Et puis en gros, on a le choix soit de nous déprimer et de se dire que ça va être la galère, soit de prendre les choses comme elles viennent et puis de se dire, bah ok, on va les batailler un peu, mais ça peut être cool, quoi.
Très bien. Finalement, c'est ce qui fait ta force aussi. Tu disais tout à l'heure que tu as toujours eu envie de faire du sport, de tenter plein de choses. Est-ce que tu penses que c'est aussi de ce fait-là ?
Alors, je sais pas. On m'a beaucoup posé la question. Alors, à une époque, j'étais absolument pas sportive. Ouais, j'ai toujours aimé tester plein d'activités parce que je voulais faire comme les copains. Donc, quand il y avait des après-midi accrobranche au collège, ben, j'en avais un peu marre de pas être invitée. Du coup, je suis rentrée chez mes parents et je leur ai dit, j'ai envie de faire l'accrobranche. Oui. Donc ils ont eu l'habitude un peu de mes idées comme ça. Comme toutes les petites filles, j'ai voulu faire de la danse, j'ai fait de la danse. Ma mère, elle s'est un peu battue pour trouver une prof qui accepte de m'avoir dans son cours. Elle a fait 30 minutes de route aller, 30 minutes de route retour pour que moi je fasse 2 heures de danse. Et la première fois, quand elle m'en a parlé, je me suis dit, mais on va pas aller à Évron, c'est pas possible. Elle m'a dit, bah, si tu crois vraiment que si elle avait dit oui et que j'avais pas envie, tu crois vraiment que je t'en aurais parlé ? Si je te propose, c'est que, bah, allez, on y va. Et en fait, mes parents ont toujours été comme ça. Ils m'ont toujours dit, bah, on sait pas si c'est possible, mais on va se renseigner. Du coup, j'ai fait bah, de l'acrobranche, du ski, du karting. Du coup, j'ai pu suivre les voyages scolaires à la montagne avec l'école. Mes parents ont été au ski avant pour voir comment ça pouvait se passer. Enfin, voilà, ils sont toujours dans l'idée, on sait pas. Mais si on peut, on le fera. Alors parfois, ça prend un peu de temps, mais au final, moi, je dis toujours qu'avec les bons contacts et les bonnes personnes, et surtout des personnes qui ont envie, ça marche, quoi. Après, par contre, pour le sport en général, j'étais à la base pas sportive, donc j'aimais bien tester plein d'activités, voilà, un peu ponctuelles, mais pas sportive de base parce que j'ai été harcelée par un prof de sport en collège. En cinquième, et du coup ça m'a un peu dégoûtée, voire même complètement dégoûtée du sport, c'est-à-dire qu'en fait il m'a humiliée pendant un an. C'était de toute façon t'es qu'une merde, tu feras rien de ta vie, mon chien sur les pattes arrière ferait mieux que toi, ma grand-mère ferait mieux que toi. Bon, j'avais 11 ans, pas simple pour se construire, surtout qu'au début moi je croyais que c'était un prof, donc je m'écravais un peu, et au fur et à mesure j'ai compris qu'en fait c'était pas normal.
De se dire que ça vient de la part d'un adulte, des fois on se dit, voilà, quand on est enfant, on peut avoir des mots crus, mais de la part d'un adulte.
C'est quelque chose que j'ai compris assez vite, ouais, les enfants en fait, et encore plus maintenant, ça me choque pas, c'est même plutôt mignon parce que c'est innocent, ils vont se poser des questions. Parfois ils ont jamais vu de fauteuil roulant, alors que ce soit le manuel ou l'électrique, parce que j'ai les deux. Mais c'est vrai que le fauteuil électrique a un petit côté un peu magique, un peu transformeur, parce qu'en plus il se met debout, c'est un verticalisateur, donc quand les enfants me voient appuyer sur le bouton et passer assis à debout, ils ont des grands yeux écarquillés, et ah, c'est comme Transformer. Oui, à peu près. Donc non, quand c'est des enfants, ça me dérange pas, au contraire, je m'arrête, j'habite juste à côté d'une école, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter à la sortie parce qu'un enfant demandait à son papa, mais qu'est-ce qu'elle a la dame? Et puis c'est les fameux, et pourquoi? Et pourquoi elle est assise? Et pourquoi elle peut pas marcher? Et pourquoi? Donc les parents sont gênés, mais moi j'ai l'habitude de leur dire, mais non, mais au contraire en fait.
Il faut répondre à leurs questions.
Répondre aux questions, et puis c'est comme ça qu'on en fera des petits qui deviendront des grands plus et plus habitués. Donc non, quand c'est des enfants, c'est vrai que ça me pose plus de problème. Quand j'étais enfant, c'était pas toujours simple, parce qu'on n'a pas ce recul-là. Et que je pouvais partir en larmes, elle a pas été gentille.
Ouais, puis on est. Enfin, je suppose que aussi on est en recherche quand on est enfant. Voilà, comme tu disais, de se faire des amis et d'être intégré aussi.
Mais après, non, je pense que quand même globalement, j'ai plutôt eu de la chance de ce côté-là.
Non. Et donc du coup, là, quand après ce harcèlement-là, t'as dit stop au sport. Ça t'a... Non, mais t'inquiète pas.
j'ai arrêté le sport à partir de cette année-là, là, en cinquième. En quatrième, j'ai eu une bonne prof qui a pas du tout été comme le précédent, donc voilà, j'ai continué, mais en troisième, je suis retombée avec le même prof, et là, j'ai même payé, j'ai pas fait un cours, Enfin, j'ai tout de suite compris qu'il avait pas le point de vue. Par exemple, à cause de mon handicap, j'ai des réflexes en fait, et du coup, je ferme les yeux, donc j'étais incapable de rattraper un ballon. Et ben lui, il me mettait dans les buts de rente pendant une heure et demie, et je passais une heure et demie pliée sur mon fauteuil ou mon vélo à essayer d'esquiver les balles. Et il était là, bah quoi, avec de la volonté, tu y arriverais, mais toi, t'as pas de volonté, t'arriveras à rien. Donc, quand j'ai vu que deux ans plus tard, il avait pas évolué, on a dit bon, allez, c'est bon, on arrête. Ouais. Et du coup, j'ai mis les séances de kiné à la place du sport. On essaye de s'adapter comme on peut et puis de faire rentrer l'emploi du temps, surtout parce que plus ça va, plus c'était quand même pas facile avec le collège et tout ça. Et puis du coup, j'ai complètement arrêté le sport en me disant, bah voilà, le sport c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, de toute façon ça sert à rien. Les gens me le présentaient souvent d'un point de vue, oh là là, tu devrais faire du sport, tu pourrais pousser ton fauteuil toi-même. Non, et puis je savais très bien qu'avec mon handicap, ben même si je me muscle, même si voilà, en fait je suis pas paraplégique. Par exemple, quelqu'un qui est paraplégique, il va avoir un haut du corps qui a été valide avant, et ben forcément il a une masse musculaire, il est capable de bouger, son corps a des réflexes qui ont quand même été un corps de valide au départ. Donc ben on peut pas comparer, mais c'est vrai que quand on voit une personne en fauteuil, on s'imagine pas les différences aussi entre les différents handicaps. Donc au départ, me présenter le sport de ce point de vue-là, c'était pas très efficace. Moi j'étais en mode oui, mais non. Et puis un jour, du coup j'étais toujours dans cette idée de... Je voulais toujours quand même tester des choses. Dès qu'on me proposait quelque chose, j'avais envie d'essayer. J'avais fait un vol en parapente quand j'avais... une dizaine d'années peut-être, parce que mon oncle est parapentiste et il a tout organisé. Lui, il pouvait pas m'emmener, mais il a tout organisé. Il a fait venir des gens de Belgique exprès et tout. Donc il y a eu une journée un peu découverte. Et à l'époque, j'ai dit waouh, c'est trop génial, le parapente, c'est trop cool. Mais alors, le parachutisme, jamais de la vie. Non, c'est un truc de suicidaire. Jamais de la vie, je ferai ça. Et puis en fait, en 2011, il y a une association qui s'appelait Marathon Soleil, qui était une association originaire de Changé.
D'accord.
Je sais pas si tu connais.
Non,
peut-être
je
que
connais
des gens
pas.
Connaissent. Ils faisaient des marathons, ils emmenaient des enfants en situation de handicap sur des marathons avec des joëlettes, donc des
D'accord.
chaises avec une roue en dessous, là, des espèces de chaises à porteurs. Et ils avaient toujours un projet solidaire pour un projet sportif. Et une année, le projet solidaire, ça a été d'offrir 10 sauts en parachute à 10 jeunes handicapés. Et le président de l'association a été mon tout premier kiné quand j'étais enfant, donc il m'avait
donc, il a pensé à toi.
Contact du jeune adulte Andy, et il a appelé mes parents, et je me souviens il est tombé sur mon père qui lui a dit, est-ce que Claire elle veut faire un saut en parachute? Mon père lui a dit, alors je ne pense pas mais on va lui proposer. Et puis pareil, quand il m'a proposé, j'ai dit, ah bah non, ça j'ai toujours dit, ça je ne ferai pas, non.
Prête à tenter plein de choses, mais...
Et puis en fait, au moment où j'étais en train de dire non, il faut avouer que dans mon cerveau, il y avait déjà un truc qui faisait « Ah ouais, mais attends quand même, c'est peut-être pas mal quand même.
Ouais. »
Et puis t'as peur, mais...
Oui, tu t'es dit peut-être, peut-être qu'on ne le reproposera jamais.
C'est ça, et puis même mes parents, là pour le coup, eux, ils ont toujours été moteurs. Et là, je me souviens de mon papa qui me disait « mais tu peux pas refuser en fait, enfin, c'est une asso, tout est organisé avec un porteur qui a des qualifications spécifiques. Enfin, d'ici un jour, tu as envie de le faire, nous, on ne saura pas comment le mettre en place. Là, il y a tout qui est prévu. En gros, tu ne peux pas dire non, quoi. Ah ouais. Donc,
vu comme ça.
J'ai laissé passer deux jours, hein, je crois, le week-end à peu près, en disant non, c'est pas possible. Mais voilà, j'étais déjà en train de changer
d'avis,
plus ou moins dans ma tête, ou en tout cas d'y penser. Alors au départ, vraiment en mode, je vais le faire pour essayer, mais ça va pas me plaire. Je le fais juste pour l'expérience, et puis parce que c'est un truc de dingue qui m'arrivera qu'une fois dans ma vie. Mais bon, peut-être que je vais soit vomir, soit tomber dans les pommes, soit peut-être que je vais mourir, j'en sais rien. Enfin, vraiment, je partais à...
Peut-être presque à reculons.
Presque, mais vraiment juste par attrait du dé de se dire, bah, je peux pas dire non, quoi. Mais on peut pas dire que j'avais envie d'y aller au départ. Donc ça fait souvent rigoler tout le monde, et puis bah voilà.
Le jour J est arrivé.
Et puis bah on peut pas reculer là, ça y est, c'est trop tard. Donc je faisais pas du tout la maline, hein. J'étais dans un état de stress. Le porteur, donc Étienne, qui était là en train de m'expliquer, donc là ce sera pour relever tes jambes, parce qu'on saute avec un système qui nous permet de relever nos jambes. comme ça à l'atterrissage, les jambes ne touchent pas le sol. D'accord. Et c'est le porteur qui pose debout. Et donc moi voilà, je touche pas le sol, donc on a pas de risque de se faire mal ou de se blesser. Et du coup, il commence à m'expliquer tout ça, et moi dans ma tête, c'était oh là là, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fais?
À aucun moment tu t'es dit non, en fait, t'as pas voulu reculer?
Dans ma tête, c'était non, hein. Dans ma tête, c'était non, mais c'est pas possible. Mais bah voilà, on est pris dans le truc, et je suis montée dans cet avion. Alors moi qui suis très bavarde, là je peux te dire que je ne parlais plus du tout. Il y a même eu un moment où ça les a un peu inquiétés, ils m'ont parlé en mode ça va, t'as pas oublié de respirer, tout va bien. Et je crois qu'au moment où on a dépassé les nuages, parce qu'on était en juin, je m'en souviens très bien, c'était le 8 juin 2011, mais du coup il y avait des nuages, ils n'étaient pas très très beaux, et au moment où on dépasse cette couche nuageuse, là il y a un blackout dans mon cerveau.
D'accord.
Où en fait je crois que je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et dans ma tête c'était, mais pourquoi t'es là? Personne t'a forcé à faire ça, t'étais pas obligée. Pourquoi t'as dit oui? C'est complètement con, quoi. Et puis, le seul sourire qu'ils ont réussi à me décrocher, c'est quand ils m'ont dit « Tu sais que tu sautes avec un champion du monde ?» Bon.
D'accord, je veux bien.
Là, j'ai souri, mais c'était un sourire crispé et pas très... voilà, vraiment pas détendu du tout. Et puis, du coup, j'ai vu donc les autres parachutistes qui étaient dans cet avion sortir au moment où la porte s'ouvre à... Alors le premier saut, moi, c'était à 3000 mètres. Donc maintenant, je saute à 4000 mètres, mais
d'accord.
Le premier, c'était à 3000 mètres. Donc à 3000 mètres, la porte s'ouvre. Et puis en fait, je vois des gens tomber, quoi. Et dans ma tête, mais on va pas faire ça. Ah bah, trop tard. En quelques secondes, on est assis au bord de l'avion. Donc pour resituer un peu.
Tu contrôles plus rien, de toute façon, c'est celui qui te porte.
Je suis accroché à un moniteur, donc c'est lui qui décide. Bon, après, il discute, hein, il fait pas ça. Il va pas le faire sans prévenir. Mais n'empêche qu'on... À ce moment-là, on maîtrise pas trop la situation, surtout pas pour un premier saut en tout cas. Et donc je me retrouve au bord de cet avion, donc je suis sur mon porteur, donc Étienne. Donc faut se dire que lui est assis au bord de l'avion, donc moi techniquement j'ai déjà les jambes vides. Et là, bah, c'est à la fois le pire moment de ma vie et en même temps la plus belle seconde de ma vie, quoi. C'est le moment où on bascule, parce que du coup on sent qu'on quitte l'avion, quoi. Et ce moment, il est à la fois... terrorisant et en même temps incroyable et magique. Et en fait, en une fraction de seconde, on se retrouve en chute libre à 180-200 km/h avec le bruit du vent qui claque, qui souffle. Je donne souvent l'image de quand on passe la main à travers la fenêtre de voiture ou même la tête et qu'on a le vent sur le visage. Là, c'est ça, sur le corps entier, pendant 45-50 secondes à environ 200 km/h.
L'adrénaline, là...
exactement, c'est le mot, exactement. C'est ce que je dis souvent, c'est une décharge d'adrénaline, en fait. Et bon, le premier saut, j'avoue, on n'a pas le temps de trop comprendre ce qui se passe. Le cerveau analyse pas trop parce que... moi, j'avais pas de repère, en tout cas, j'étais complètement perdue. Mais on n'a même pas le temps, sur le coup, de l'analyser tellement ça paraît dingue au début. Et puis, donc, ça dure 45 secondes à peu près.
Okay.
Et ensuite, Étienne, le porteur, va ouvrir la voile, va ouvrir le parachute qui va permettre à la voile de se déployer. Et du coup, on passe de la position horizontale à la position verticale avec la voile qui est au-dessus de nous. Et là, c'est presque un autre monde. Le bruit s'arrête, le vent, on ne le sent plus du tout de la même manière parce qu'il y a beaucoup moins de vitesse. Et on peut se parler, alors qu'en chute libre, on ne s'entend pas. Enfin, ou alors... Lui, si Louis-Étienne me crie dans l'oreille, je peux l'entendre, mais l'inverse, c'est pas possible. Ce qu'on voit dans les films où les parachutistes se parlent, à moins d'avoir des casques Bluetooth et tout ça, mais c'est encore autre chose. Et donc voilà, là, on va avoir 5 à 7 minutes sous voile pour se promener.
Et là, tu voles vraiment.
Et là, on vole, ouais, c'est assez incroyable, ça l'est toujours d'ailleurs. Et c'est vraiment deux sensations qui sont différentes, mais qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'adore les deux. Et du coup, je pourrais pas me passer des deux, en fait. Et je pense que c'est ce mélange des deux aussi.
Ouais.
Le contraste des deux qui fait que l'instant est encore plus magique. Enfin, c'est un peu un instant suspendu. On peut même regarder au sol. Plus on se rapproche, plus on voit les choses. Ce qui est au départ des petites taches sur le sol. On comprend que c'est des voitures et tout ça. Et c'est assez rigolo de se dire, il y a des gens dans des embouteillages. Et nous, on est en l'air.
Ouais. C'est un sentiment aussi, je pense, de liberté énorme.
Ouais. Mm. Adrénaline et liberté, ouais. C'est les deux mots qui résument, je pense, le parachutisme.
Très bien.
Et c'est ça qui rend accro aussi.
C'est ça, parce que du coup, une fois que tu as fait ce premier saut, donc là, tu t'es dit... quand est-ce qu'on recommence?
Ouais, c'est exactement, c'était mes propres mots. En fait, j'avais oublié qu'on se rapprochait des gens, parce que j'étais vraiment en train de vivre le truc, mais sans comprendre ce qui se passe. Et donc, je hurlais sous voile, mais vraiment, au moindre petit quart de tour, au moindre petit mouvement de la voile pour nous décrire, j'étais là, waouh, c'est un truc de dingue, oh putain, ça prenait. Bon, ouais, j'ai beaucoup dit gros mots aussi. Je pense que j'ai un peu cassé les oreilles de mon porteur. Et puis je suis arrivée au sol, mais complètement presque hystérique, quoi. C'est-à-dire que si je pouvais sauter, ce qui est pas possible, mais si je pouvais sauter, en fait j'avais envie de rebondir sur place. J'ai vu tous mes proches arriver et tout, ils m'ont tous alors comment c'était, et les premiers mots que j'ai dit c'est putain, c'est un truc de ouf, quand est-ce que je remonte? Mais en me disant voilà, c'était tellement génial, oui je vais le refaire. Bon, sans imaginer qu'au final, ça
allait t'amener là où tu en es aujourd'hui.
C'est ça, ça m'amène mon sport et tout ça, mais c'était quelque chose où dès le départ, je savais que j'allais le refaire. Mais je savais même pas que c'était un sport, en fait. Pour moi, c'était quelque chose qu'on faisait
en loisir
à l'anniversaire. Voilà, je m'étais dit, bah, tu referas peut-être à tes 20 ou à tes 30 ans ou à un enterrement de vie de célibataire, je n'en sais rien. Pour moi, c'était vraiment un truc comme ça et pas une pratique, en fait. Et puis, 3 ans après ce premier saut, Louis-Étienne a recontacté Laval Parachutisme, le club où j'ai fait mon premier saut, en leur disant « Ouais, il y a les premiers championnats de France en 10, j'ai envie d'emmener Claire. »
Sans t'en parler, avant?
Je crois que c'est le club qui m'en a parlé en premier, en me disant que voilà, ils avaient échangé avec lui et qu'ils voulaient partir là-dessus. Et je lui ai dit « Mais en fait, tu t'es trompé de personne. » C'est-à-dire que moi, je suis pas sportive. Ça fait des années que je demande des certificats médicaux pour ne plus faire de sport depuis cette histoire du collège. Je lui dis, mais bah, en fait, non, c'est pas moi. T'sais. Et comme on avait été une dizaine à faire ce baptême de découverte, je me suis dit, mais il y a une erreur, en fait.
Pourquoi moi sur les 10? Et t'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 18 ans.
D'accord, en plus, ouais.
À mon premier saut, ouais. Mais en fait, j'ai découvert un truc, peut-être avec ce premier saut, je sais pas si c'était comme ça avant, mais en fait, je sais pas dire non. C'est-à-dire que j'ai peur de tout, mais je finis par dire oui. Parce que dans ma tête, j'ai toujours l'idée de bah ouais, mais si tu dis non, tu vas le regretter. Donc ouais. Bah là, t'as peur, mais vas-y quand même, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai dit oui au premier saut, et c'est comme ça que j'ai dit oui à la première compétition. Mais vraiment pas en mode compétition, moi je le voyais juste comme une opportunité de
sauter. Ouais, une nouvelle expérience et...
Et puis en fait de refaire des sauts, parce qu'il m'a dit, bah, du coup, je lui ai dit, mais attends, c'est une compète, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Ouais, il faut faire des tours en chute. Et il me dit ça, normal quoi. Je lui ai dit, tours pendant la chute libre. Mais je lui ai dit, mais j'ai fait un tournée, c'était il y a 3 ans. Ouais, parce que du coup, mon premier saut était en 2011 et là, le premier championnat c'était en 2014. Du coup, je lui dis, mais mon tandem, il date d'il y a 3 ans, okay, je sais pas tourner. Oui, bah on fera 2 sauts d'entraînement et on verra bien. Et ben, ok.
Allons-y.
Donc, j'ai dû dire à mes parents, bah, je vais à Saumur pour faire 2 sauts, parce que après, on va être compète. Donc, au départ, quand j'ai appelé mes parents, je vis à Tours pour mes études à ce moment-là. Et je les appelle, je leur dis, bah, alors j'ai rien compris, on m'a proposé une compétition, c'est à Vichy. Faut faire 3 sauts. Je me suis dit, mais mes parents vont jamais faire 600 km en voiture pour un truc qui dure 4 jours pour aller faire 3 sauts. Enfin, ça me paraissait le truc, mais complètement ahurissant. Et du coup, je raconte ça, mais vraiment juste en mode, bah, voilà ce qu'on m'a proposé, mais voilà quoi. Et je raccroche avec mes parents, et je sais pas combien de temps, mais dans la même journée, quoi, mon père me rappelle en me disant, ah bah c'est bon, on a trouvé une solution, on va louer un camping-car, on part à Vichy cet été. Ah, dis ouais, bah vas-y, inscris-toi à ton truc. Ok, donc bah voilà.
C'est incroyable, quand tu disais par exemple dans ton enfance ou même là, le dévouement de tes parents. Ouais, et voilà, on a l'impression, je pense que c'est pas qu'une impression, mais qu'ils remuent ciel et terre pour te suivre dans tes aventures, ouais, dans tes expériences, et que t'aies la meilleure vie possible. Je trouve ça beau.
Ouais, mais quand je disais que j'ai beaucoup de chance, c'est que bah, vraiment. Je sais que, bon, après, les parents font toujours des tas de choses pour leurs enfants, Mais là, oui, peut-être que, je sais pas, qu'il y a un truc supplémentaire, je sais pas, mais ouais, j'ai des parents dévoués, une maman qui est toujours là, et mon papa qui est plutôt content parce qu'il sait que voilà, c'est lui qui avait un peu poussé pour ce premier saut. Mm. Il aime bien me le rappeler maintenant, bah, ah, tu vois, j'avais bien fait. Donc, ben voilà, on est parti au championnat de France, donc j'ai fait 2 sauts d'entraînement jour avant à Saumur, parce que Louis-Étienne habite là-bas et sautait là-bas. Parce que du coup, il faut un moniteur qui a une qualification spécifique pour emmener des ondes. On ne peut pas juste être porteur tandem, il faut avoir la qualif en plus. Ce qu'il n'y a pas partout, donc c'est, ça complique un peu la pratique. Mais... Donc on est parti à Saumur, on a fait ces 2 sauts d'entraînement et je me suis retrouvée au premier championnat de France en mode « Salut, j'ai 3 sauts » et j'ai croisé un autre compétiteur qui me dit « Salut, j'en ai 52 !» Je l'ai regardé avec une tête de « Quoi ? Pardon ? Qu'est-ce qui... Ok. »
Là aussi, t'as dû te dire « Qu'est-ce que je fais là ?»
Ah, mais c'était que ça, tout le temps. Et puis, bah voilà, la compète se passe. Alors moi, je suis pas du tout compétitrice de base. Donc au départ, j'y allais parce que voilà, c'était... Pour moi, c'était 3 sauts en 3 jours et c'était incroyable, quoi. Il faut se rappeler que j'avais fait qu'un seul saut. Et puis les 2 petits sauts d'entraînement, donc... Je me suis pointée à la compète avec 3 sauts. Et j'ai fait mon 4e en championnat de France. Tout va bien. Et puis, bah, en fait, je me suis assez vite pris au jeu parce que le 2e saut de la compète était déjà un peu moins bon que le premier. Et puis, je commençais à grogner, à me dire « Ah, mais pourquoi j'ai pas réussi ?» Et Louis-Étienne m'a vite remis les pieds sur terre en disant « Attends, bah voilà, c'est ta première compète, t'as 5 sauts, bon, on va se détendre. » Et puis, voilà, ça s'est passé. Et à la fin de la compétition... Il commence à me dire, ah bah ouais, on pourrait travailler ça et ça, et je le regarde, mais ah bon, parce que.
On continue après.
C'est pas fini. Et puis bah voilà, il m'a dit, bah ouais, carrément, si tu veux, l'année d'après, on s'entraîne, tu fais plusieurs sauts dans ta saison, et puis comme ça, t'arrives au championnat vraiment préparé, quoi. Et puis bah, c'est parti comme ça, et j'ai jamais arrêté. Et depuis, j'ai participé à tous les championnats de France, puis des compétitions internationales, et voilà, maintenant j'ai 211 sauts.
Trop bien. Et une médaille de bronze ?
Deux médailles
de bronze.
Ouais, en 2021 et 2022 au championnat de France.
Trop bien.
Ouais.
Ça doit être une telle fierté ?
Ah ben, elles ont mis longtemps à arriver quand même, parce que, ouais, du coup, ça a dû faire 7 ans de compétition avant d'avoir la première.
Ça va ? 7 ans, c'est pas beaucoup.
Ah, c'est long quand on voit les copains qui progressent vite, on a un peu envie de... Mais après, c'est pareil, c'est vraiment pas... pour l'idée de la compétition, mais plus pour moi perso, de me dire en fait, ce que j'aime, c'est de voir la progression. Et malheureusement, y en a pour qui c'est plus long que d'autres, donc apparemment je fais partie de ces gens-là. Mais en fait, c'est chouette parce que, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté la compétition en fait, c'est qu'en fait, on découvre qu'il y a des choses à apprendre et que c'est pas juste du sauter, t'as quelque chose à faire, c'est à toi d'être précis, parce que du coup, l'épreuve, oui, c'est vrai que je t'ai pas raconté, mais l'épreuve, c'est du coup 4 tours alternés. Donc on a un vidéoman qui saute en face de nous, qui fait complètement partie de l'équipe et qui me sert de point de repère, c'est-à-dire que on se met face à lui quand on sort de l'avion, une fois qu'on est stabilisé. Et après, une fois qu'on est face à lui, le porteur va me donner le top en levant ses pouces, tu vois, devant moi. Et donc ça veut dire, ok, c'est bon, on est bien placé, tu peux y aller. À partir de ce moment-là, lui, il range ses bras et
il fait plus rien. Et là, c'est toi qui...
Il est avec les jambes, sauf pour des questions de sécurité, évidemment. Et là, c'est à moi de déclencher, donc un tour à droite, un tour à gauche, un tour à droite, un tour à gauche, ou l'inverse, gauche-droite, gauche-droite. Du coup, le plus rapidement possible et le plus proprement possible. C'est-à-dire qu'il faut que je m'arrête face au vidéoman. Si je m'arrête avant, j'ai des pénalités en fonction de l'angle auquel on s'est arrêté. Et si on s'arrête après, on se pénalise nous-mêmes parce qu'on a du chemin à faire dans l'autre sens. Donc, il faut être...
C'est très technique.
Précis, mais rapide en même temps. Vous trouvez un peu le milieu. Donc, c'est pas si simple.
Et du coup, toutes ces expériences, t'as aussi redonné goût au sport ?
Ah ouais, complètement.
Et à faire plein d'autres activités.
Quand je dis que le parachutisme a changé ma vie, c'est pas pour la blague. Hein. C'est que vraiment, j'étais vraiment pas la même personne avant et après. Après le premier saut et puis avec tout ce qui s'est passé ensuite. Déjà, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir vraiment une passion. En fait, avant, je pense que je savais pas ce que c'était. Enfin, c'était un mot un peu... Voilà, il y avait plein de choses que j'aimais. Oui, j'aimais la danse, oui... Mais là, il y a un truc différent. Enfin, je me lève le matin, je vais regarder la couleur du ciel, alors qu'avant, j'en avais mais rien à faire. Là, je suis capable de regarder les nuages en me disant « Ah, c'est beau, oh, ça donne envie d'y aller. » Et puis les gens, quand je leur en parle, ou quand je vais parler à quelqu'un qui va me dire « Ah non, ça me fait peur, ah non, j'ai pas envie », moi je vais être là « Mais non, mais attends, c'est génial, tu peux essayer, c'est trop cool et tout ». Et les gens me disent « Ah, c'est incroyable quand on parle, t'as les yeux qui brillent ».
Oui, je confirme. Même, je pense que les personnes qui nous écoutent, on le ressent, voilà, dans la manière dont tu le racontes, que c'est vraiment...
Tant mieux. Mais du coup, ouais, je pense que ça a changé ça, déjà, d'avoir un truc qui te fait vibrer, qui fait, quoi, d'avoir un objectif. Enfin, moi, maintenant, mon planning est organisé, alors pas exclusivement en fonction de ça, hein, mais c'est vrai qu'en pendant la saison, parce qu'on saute à peu près de, on va dire, mars à novembre, et voilà, pendant les périodes de compétition et tout ça, ben, les week-ends, ça va être bon, alors ça peut sauter, est-ce que t'as un moniteur? Non, parce que si c'est prévu, du coup, je vais peut-être rien trop mettre à côté, parce que j'aimerais bien aller sauter quand même. Et puis, je vais suivre, voilà, les événements à droite à gauche, les dates de compète. Clairement, mes congés sont posés pour les entraînements, les compètes, ou même des événements autres que compète, hein, pour du loisir et tout. Il est rare que je pose des congés pour ne rien faire. Ça n'existe pas, alors, dans mon vocabulaire. Mais du coup, ouais, ça a changé ça, et puis oui, ça m'a donné confiance, parce que, bah, on va pas se mentir, on saute dans l'avion, quoi. Et à partir du moment où on se dit, mais attends, t'as
je suis capable de faire ça, oui.
Et puis oui, il y a le côté Andy, enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ouais, l'image la plus dingue du premier saut, ça a été aussi d'être sous voile et de voir le fauteuil vide qui m'attend en bas, et j'avais envie de lui faire... c'est pas cool, mais des gros feux, on avait pas besoin de toi parce que je vole en fait. Donc, ouais, c'est incroyable et ça change de perspective. Il y a eu plein de moments, je me souviens, je crois que c'est mon bac parce que j'avais 18 ans et c'était au mois de juin, donc j'étais dans les moments des examens. Et après, quand il y avait des trucs qui me faisaient peur et tout, je me dis, mais attends, mais t'as sauté d'un avion. C'est bon, arrête d'avoir peur. Donc, ouais, ça change de perspective complètement. Et puis, c'est quand même plutôt cool de faire un sport que certains valides ont peur de faire.
Et je voyais à côté, tu fais du crossfit aussi. Ouais. Alors, quand j'ai lu que tu faisais du crossfit, je dis, mais attends, mais comment c'est possible? Ouais, c'est... Et après, j'ai regardé quelques petites vidéos. Ouais, je dis, ah, mais oui, tout à fait.
Mais en fait, tout est adaptable.
Ouais. Et c'est chouette, ça.
Ouais, complètement. Et du coup, quand je disais que ça a changé ma vie, c'est qu'en fait, à la fin de ce premier championnat de France, ça a été un peu un déclic pour me dire, bah ouais, en fait, peut-être que si je fais du sport, je vais être moins fatiguée, je vais être capable de mieux prendre la position, et que du coup, bah, je volerai mieux, que ça se passera mieux. Donc, bah, après tout, voilà, t'es capable de sauter d'un avion, pourquoi t'irais pas t'inscrire dans une salle de sport? Donc, ma kiné de l'époque était ravie, parce que ça faisait des années qu'elle me dit, tu devrais faire du sport, ça te ferait du bien. Et j'étais là, non, non, ça sert à rien, c'est de la merde. Et puis un jour, je finis par me dire, je vais peut-être me mettre au sport. Mais pareil, sans savoir où je mettais les pieds et ce que ça allait donner. Et en fait, je suis allée d'abord dans une salle de sport fitness classique, absolument pas spécialisée en vie non plus. Et en fait, c'est ce que j'aime, moi, dans ma vie, c'est de pas forcément chercher les choses qui sont adaptées ou étiquetées pour, mais juste, bah, t'as envie de faire un truc, tu contactes les gens, s'ils sont partants, en fait, on s'en fout qu'ils aient un diplôme ou pas un diplôme spécifique, quoi. Tant qu'il a des idées et qu'il a envie de chercher, on y va, quoi. Et puis le côté tout le temps un peu envie, il y a parfois aussi un côté un peu médical ou un peu trop précautionneux, peut-être. Alors pas tout le monde, hein, je crache pas sur les coachs adaptés. Et d'ailleurs, j'en connais et on a quelques petits projets. Donc non, au contraire, je sais très bien que ça apporte plein de choses. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était plus dans l'idée, bah, de toute façon, il n'y en avait pas. Spécialement, où je savais pas à quelle porte taper. Et du coup, bah, c'est ma kiné qui m'a parlé d'une salle, donc c'était Urban Fitness à l'époque, et je suis allée là-bas, un peu pareil, j'arrive un peu timide, en mode, voilà, j'ai peut-être envie de faire du sport, j'ai pas vraiment d'objectif, mais je fais un peu de sport à côté, et du coup j'aimerais bien, je sais pas ce que je peux faire, enfin vraiment, je leur dis, bah, j'ai pas d'abdos, je peux pas me muscler, de toute façon ça va pas marcher, mais voilà, j'ai envie de bouger et de voir ce qui peut se passer, quoi. Et puis bah, j'ai rencontré un coach incroyable qui en 4 ans de sport m'a fait marcher en béquille.
Génial.
Donc ouais, c'est assez incroyable. En fait, il a tout adapté. Mais pareil, sans se prendre la tête, alors j'imagine que ça lui a demandé beaucoup de travail. Mais il était en mode, bah ok, on va voir, on va essayer.
On tente et...
On a commencé doucement et puis au fur et à mesure, ah tiens, ça marche. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui passait par là, ah tu pourrais peut-être essayer ça et ça. Et en fait, après, on a fini par prendre... quasiment, presque tous les exercices, et les aborder d'un point de vue ok, donc celui-là, comment nous on peut l'adapter pour qu'elle le fasse. Et bah, du coup ça a marché parce que bah, voilà, c'est ce que je disais, en 4 ans j'ai fait quelque part en béquille, donc c'est plutôt magique quand même.
Ouais, bravo si, en tout cas.
C'était pas le but à la base, c'était pas le projet, enfin j'ai jamais rêvé de marcher par exemple, enfin si, je pense quand j'étais enfant il y a toujours eu des moments où je voulais être comme tout le monde, voilà, mais c'est pas un truc qui m'est resté où je me suis dit ça va être la quête ultime et un jour je serai debout. En fait je me suis dit bah ok, c'est comme ça, soit tu l'acceptes et t'avances et tu te dis que tu feras ta vie de femme en fauteuil avec j'espère un jour une famille, un mari, des enfants, plutôt que de dire je serai debout et de passer ta vie frustrée et malheureux parce que tu cours derrière un truc qui n'arrivera jamais quoi. Donc j'ai toujours été comme ça et les béquilles c'était vraiment pas
un objectif.
Mais disons que c'est la petite cerise sur le gâteau. Et ce super coach, malheureusement, il a dû partir pour son travail, il a déménagé. Donc voilà, quand il me l'a annoncé, ça a été la catastrophe. Ça a beaucoup fait rire mes parents d'ailleurs, qui se sont pas rire, c'est pas le mot, mais qui se sont dit attends, pendant des années, tu nous as saoulés, un sport que tu voulais plus voir, et là tu pleures parce qu'il y en a qui part, on te comprend plus. Et puis ben voilà, en fait, ils ont compris que ben, ça avait, enfin voilà, c'était différent et c'était un peu compliqué. Bah, d'imaginer ce que j'allais faire après, oui. Et puis j'étais dans une phase où voilà, il y avait les gros progrès, il y avait
forcément il y a des liens qui se créent aussi,
Donc j'avais pas envie que ça s'arrête en fait, et j'avais du mal à me dire que je pouvais trouver autre chose derrière, en fait j'avais l'impression que c'était déjà tellement chouette comme ça. Et puis finalement donc Bruno, pour lui faire la petite dédicace, Bruno quand il est parti m'a dit bah, en fait j'ai un truc pour toi. Je vais pas te lâcher, enfin je pars, mais j'ai une petite idée. Et j'ai un pote qui ouvre une box de CrossFit à Laval.
D'accord.
Et je lui ai parlé de toi, il est prêt à s'adapter, il t'attend. Et là, moi je rigole, je lui dis tu te fous de ma gueule, je vais pas faire du CrossFit quand même. Oui, et 4-5 ans que je fais du sport, d'accord, mais enfin, du CrossFit c'est pas du tout pareil, c'est pas adaptable. Enfin, pareil, tous les clichés que n'importe qui peut avoir, c'est le truc où il pousse des pneus. Non, pas du tout. Ça n'est pas ça. Mais et du coup, voilà, il se trouve qu'en effet, il avait parlé de moi à Paul-Antoine Normand, le gérant de CrossFit Mayenne. Et du coup, bah, j'avoue, j'ai fait ma curieuse. Et j'ai été chercher sur Insta pour me renseigner. La box n'était pas encore ouverte à l'époque. Donc on s'est contacté. En effet, il avait entendu parler de moi. Et moi, du coup, de lui. Et pour la petite blague, en fait, on se connaissait un peu. Parce que Paul-Antoine a fait quelques sauts en parachute.
D'accord, très bien.
Donc on s'était croisés et je me suis dit, ok, là c'est un signe, c'est ton premier coach qui t'envoie vers ça. Le coach en question a été parachutiste. Bon, là si c'est pas le destin qui te dit qu'il faut y aller, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'ai fait la séance de découverte avant même que la box ouvre en fait, juste avant l'ouverture. Et puis j'ai retrouvé un peu le côté... challenge que j'avais en coaching perso, le fait que tout change tout le temps, on s'ennuie pas, on n'a pas à chercher ce qu'on va faire parce que en CrossFit c'est différent tous les jours. Et je me suis dit mais waouh, on peut avoir ça même en groupe, même quand on n'est pas dans du coaching perso. Et en fait j'étais pas du tout partie pour m'inscrire, et direct après la séance d'essai j'ai laissé passer la soirée. Et puis en fait je me suis dit bah tu vas prendre un abonnement annuel. Et puis bah voilà, c'était parti.
Trop bien, mais c'est chouette que le sport en général t'anime et que ça te donne des belles motivations comme ça pour progresser, tout ça, vraiment
ouais,
cool.
Après, c'est vraiment du quotidien parce que c'est chouette, ça donne on gagne en force, moi j'ai gagné en mobilité par rapport à mon handicap.
Oui, t'as vu aussi une progression à ce niveau-là. Ouais.
Bah déjà voilà, elle est quelque part en béquille. Et puis même dans le quotidien, ça, je venais de m'installer dans mon appart et tout de suite j'ai vu que voilà, si je faisais tomber les clés, bah, j'étais capable de me mettre accroupie et que j'avais confiance dans mes jambes pour pousser un peu dessus, pour me relever, pour aller ramasser quelque chose quoi. Et puis on dit que le CrossFit c'est fonctionnel et que c'est des mouvements du quotidien. Et ben oui, en fait il y a eu des fois où il fallait que je prenne des bouteilles d'eau là de 6 litres par exemple. Parce que pour éviter de porter les bouteilles d'eau, je prends ça. Enfin, ma mère me dépose ça de temps en temps.
Okay.
Et puis, tout bêtement, je voulais la changer. J'avais pas mon aide à domicile parce qu'on était le week-end. Et je me suis dit, bah, tu vas quand même pas attendre. Tu vas essayer de le faire. Et je me suis dit, mais comment Paul-Antoine te ferait porter un truc comme ça. Donc j'ai essayé de décomposer, ça a pris un peu de temps, mais voilà, j'ai réussi. Et puis pareil, les fois où je vais tomber, bah, je vais me dire, bah, en fait, t'as juste à te retourner, tu fais une pompe et tu te relèves. En vrai, tu le fais tous les jours, donc... Enfin, là, tu sais le faire aussi. Parfois, ça m'est arrivé de, voilà, de devoir décaler un meuble parce que j'étais un peu coincée, parce que je m'étais mal pris pour un transfert ou quoi. Ben, je pense qu'avant, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, voire même, je serais peut-être restée un peu par terre en me disant, bon, je vais appeler quelqu'un, que là, ben, je vais chercher. En fait, je vais me dire, ben, peut-être que tu peux te retourner, peut-être que tu peux te mettre comme ça. Et puis, au final, ça marche. Alors, ça prend un peu de temps.
Ouais, mais c'est une belle preuve de persévérance et de force.
Bah, je sais pas.
Si, je pense. C'est mon avis, en tout cas.
Mais voilà, du coup, ouais, y a le quotidien et puis il y a le côté sport. Ouais. Donc, bah, c'est addictif. Hein. Clairement, le parachutisme est une drogue. Donc, je suis droguée à l'adrénaline. Mais l'avantage, c'est que c'est une drogue légale. Donc, celle-là, il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est des... pour le parachutisme, c'est des sensations qu'on a envie de retrouver tout le temps. En fait, on a à peine fini qu'on a envie de remonter parce qu'on doit reprendre sa dose, quoi. Et puis bah, finalement, en crossfit, c'est un peu pareil. On prend des habitudes, on voit qu'on progresse. Mon corps a évolué aussi dans ses capacités. Donc, au fur et à mesure, je me disais, ah oui, je peux faire ça, en fait. Mais alors, du coup, si je peux faire ça, je peux peut-être faire plus.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu te fixes des objectifs comme tous les sportifs ou est-ce que tu vois comment ça évolue?
Alors, en parachutisme, oui, j'ai des objectifs... ils sont pas vraiment par rapport aux autres parce que ceux qui sont devant moi sont très bons et que je pense que ça va être un peu compliqué d'aller jusqu'à leur performance, mais plutôt par rapport à moi. En fait, j'ai toujours envie de voir une évolution, de me dire que voilà, on a cherché, on a changé de technique parce que c'est pareil, hein, ça se fait pas comme ça. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps juste pour trouver une technique un peu efficace en fonction du handicap aussi et des capacités qu'on a, parce que chaque personne est différente. Et par exemple pour le para, bah, il faut qu'on tourne, on va pas tous tourner de la même manière. Certains vont utiliser les bras et les jambes, d'autres les bras, certains vont se tenir les mains, d'autres vont voler les mains libres. Donc moi j'ai un peu galéré. j'ai cherché, j'ai changé de technique pendant des années. J'ai un peu tout le monde qui voulait m'aider, on disait, ah, essaye ça, puis en fait on change tellement qu'on a à peine le temps de la tester, qu'on sait pas trop si elle a marché ou si... Mais donc voilà, ça a pris du temps, mais ce que j'aime le plus, c'est de voir cette évolution, de me dire, ok, maintenant, le mouvement que tu veux faire, tu sais le mettre en place, tu sais que ça marche, et voilà, trouver cette régularité. Je suis encore dedans, hein. Il y a des sauts où ça marche très bien, et du coup c'est nickel, et puis le saut d'après... ça marche pas, et on se dit, mais attends, pourquoi t'y arrives bien? Donc je suis encore dans cette phase-là, mais je vois quand même qu'il y a une évolution. Et en crossfit, c'est ça aussi, ça va être d'aller grappiller des petits mouvements. Alors parfois ça va même être des mouvements du quotidien que les autres sportifs peuvent pas imaginer. Mais quand j'ai commencé le sport, alors là on est en podcast donc vous allez pas le voir, mais je pouvais pas lever les bras un peu, on va dire, plus haut que mon nez, quoi. Et maintenant je peux lever les bras au-dessus de la tête, donc voilà, c'est des évolutions qu'on voit, et forcément ça donne envie de se dire,
d'aller plus loin. Peut-être
que, bon, voilà, il y a encore des choses, il y a des trucs tout bêtes, hein, mais je peux pas atteindre mes pieds parce que du coup je ne peux pas mettre mes chaussures toutes seules. Donc ça, c'est un peu un truc pas secret, mais un objectif où je me dis, bah, un jour quand même, ce serait bien que ce pied gauche il arrête sur mon genou, quoi. Parce qu'à droite je peux le faire, mais je suis plus raide de l'autre jambe. D'accord. Et du coup je ne peux pas. Donc ouais, je saute dans l'avion, mais je ne peux pas enfiler des baskets. Voilà. Donc, il y a ces objectifs-là, et puis il y a le côté compétition où on rajoute le côté un peu performance, où on essaye de grappiller des secondes, de trouver des techniques. J'ai même fait un petit peu de compétition en crossfit aussi. Pareil, je suis tombée dedans un peu par hasard, on me l'a proposé, et puis bah, je ne sais toujours pas dire non. Donc, je me suis retrouvée à faire les Marseilles Throwdown, qui sont une des plus grosses compétitions de crossfit. Je les ai fait 2 années de suite, ou alors des petites compètes. Avec la boxe aussi, il y en a eu une avec ma boxe, et du coup j'ai été intégrée en équipe avec un pote valide, donc ça c'est chouette aussi. Donc c'est plus pour les opportunités et les défis.
Très bien.
Que pour le côté purement compète. Et puis bah, le parachute, j'avoue que depuis que j'ai eu les premières médailles, c'est le problème, hein, quand on commence à aller sur le podium, on n'a pas très envie de redescendre.
J'imagine. Je voulais parler aussi avec toi des... des difficultés un peu que tu as, auxquelles tu as dû faire face en devenant adulte. On parlait tout à l'heure de ton logement, de ton travail, de la mobilité. Ouais. Je sais que ça a été des grandes épreuves et beaucoup ouais. de persévérance aussi.
J'ai l'habitude de dire qu'en fait, avec le handicap, on prend toutes les étapes de la vie de quelqu'un et on rajoute des degrés de difficulté. Donc, ce qui va être un peu compliqué pour quelqu'un, bah, nous, ça va être encore la marge du dessus. Et voilà, quand les choses se compliquent, bah, ça se complique aussi beaucoup pour nous. Donc, en général, ça prend du temps. Clairement, moi, l'autonomie, c'est vrai que c'est un but un peu... c'est le truc qui me guide un peu. Je sais que je ne serai pas à 100% complètement autonome. Mais voilà, je voulais faire des études. J'ai un bac plus 3 en communication. Voilà, mine de rien, ça aussi, ça a été... une bataille parce que c'est pas toujours simple. Je me suis fait refuser les portes d'une fac parce qu'elle n'était pas accessible, alors que j'étais majeure de ma promo sortie de BTS, que soi-disant toutes les portes allaient s'ouvrir devant moi. Et puis quand j'ai dit je veux cette licence, on m'a répondu non madame, on a un escalier en colimaçon. Bah oui, mais j'ai 16 de moyenne et j'ai fait mes stages en fonction de votre option et j'ai tout calé pour. Ah bah oui, mais en fait vous pouvez pas monter. D'accord. Donc voilà, ça a été une des difficultés où il a fallu l'avaler. J'ai raté mon permis et ça a été quelque chose de très compliqué aussi parce que ça a été compliqué avec l'auto-école à l'époque. J'ai perdu la validité de mon code le temps de faire la conduite accompagnée. Et on a voulu faire comprendre que c'était compliqué et que peut-être il pouvait y avoir... Enfin voilà, ça jouait à 8 jours et dans les 8 jours, l'inspecteur a répondu « Bah non, elle peut pas repasser le permis, elle a plus son code. » Ouais, mais alors attendez, parce qu'on est quand même passé par des étapes où, on parlait des difficultés liées au handicap. Bah là, pour le coup, moi les gens m'ont dit « Ok, c'est cool, tu passes ton permis. » Ouais, non, c'est pas si simple que ça en fait. Oui. Il fallait trouver une auto-école adaptée, il fallait passer en préfecture pour faire valider les aménagements, il fallait passer devant un médecin pour demander l'autorisation de conduire. Enfin voilà, ça se fait pas comme ça quoi. Donc
il faut multiplier les démarches pour chaque chose qui peut nous paraître.
Même à l'école, hein, au départ, le fait que je sois scolarisée, ça a pas été si simple que ça. Mmh. Moi je m'en rappelle pas, j'étais trop petite, mais mes parents et ma maman a dû batailler pour que j'aille à l'école et que je sois scolarisée avec les autres. Et elle a entendu, madame, votre fille n'est pas prioritaire. Bon, et après j'ai obtenu un bac plus 3, donc on se dit ça valait le coup de se battre.
Oui,
mais voilà, c'est des étapes comme ça. Il a fallu que j'ai des auxiliaires de vie scolaire, donc ça aussi c'était toujours un peu la bataille quand même pour aller entre guillemets négocier, à dire si en fait si elle les a pas, elle peut pas aller à l'école, donc débrouillez-vous. Et souvent c'était au mois d'août pour la rentrée de septembre où on se disait ok, c'est bon. Mais même pour aller au collège, prendre le car, il a fallu négocier. C'est-à-dire qu'en fait, Rosa Parks, mais version 2011, quoi. Au départ, on ne voulait pas que je monte dans le car parce que le chauffeur ne devait pas intervenir pour m'aider. Et ma mère avait dit, non mais attendez, je la monte dans le bus,
oui.
Je mets son fauteuil et elle arrivait à son auxiliaire de vie scolaire qui l'attend et qui va l'aider à descendre. En plus, mon frère prenait le... Il est plus âgé que moi, et du coup, il prenait le même bus. Et donc, au pire, il pouvait nous aider. Et voilà, on ne demandait rien à personne. Et ben ça, il a fallu 6 mois de négo.
Est-ce que tu penses que tous ces efforts à faire, c'est... Enfin, parce que là, du coup, tu disais tout est possible, en fait. Et c'était juste des autorisations à avoir, des démarches administratives. Est-ce que tu penses qu'on se complique un petit peu les choses avec ça ou...
Ouais, je pense. Après, je pense aussi... Enfin, j'espère... que les choses ont évolué et que du coup pour les plus jeunes maintenant, j'espère que c'est plus facile. Il y a des choses où je me suis rendu compte que finalement pas tant que ça. Il y en a qui ont galéré au lycée après moi et je me dis ah merde, j'en ai chié. Et puis en fait...
Tu pensais ouvrir la porte
Je pensais qu'avec le temps, le regard des autres et le regard des jeunes allait évoluer. Finalement il y a encore des petits... C'est encore un peu compliqué, mais ouais, les normes et tout, c'est sûr qu'on se complique la vie de dingue. Enfin... Les normes d'accessibilité, c'est un truc... Moi, en vrai, je m'en fous des normes. Je m'en fous que ce soit parce que c'est écrit dans tel endroit. Ou... Non, en fait, ce que je regarde, c'est si moi, c'est pratique. Et si c'est pratique, ok, j'y vais. Et si c'est pas pratique, bah, dans tous les cas, de toute façon, je vais me débrouiller. Mais par exemple, un jour, on m'a demandé, quand j'étais stagiaire, de venir tester des toilettes. Parce que justement, il avait fait des travaux et qu'il voulait être aux normes. Et du coup, il voulait que je teste. Donc j'ai beaucoup ri. Parce qu'il se prenait la tête. Parce que il y avait un des deux toilettes qui était aux normes et pas l'autre. Sauf qu'ils avaient mis un bonhomme fille et un bonhomme garçon. Et du coup, c'était la cata parce que ça collait plus, quoi. Et je leur ai dit, mais vous voulez vraiment que je vous dise comment je fais? Mais moi, je vais ouvrir toutes les portes. Je vais regarder laquelle est la plus pratique. Et puis, j'en ai rien à foutre que ce soit une jupe ou un pantalon dessiné dessus, quoi. Je veux dire, si je vois une barre d'un côté, bah évidemment, je vais aller du côté où il y a une barre et où je peux mettre mon collet tranquille. Donc voilà, c'est un petit exemple, mais... après c'est sûr qu'il y a des règles et il faut qu'elles soient là parce que si on met une pente pour dire qu'on a mis une pente et que la pente elle est hyper raide et qu'on peut pas la gérer en fauteuil, ça sert à rien de se dire accessible, mais c'est comme tout, il faut un juste milieu, quoi. Enfin, ouais, les normes c'est compliqué, mais je sais même pas en fait par rapport aux autres pays, je pense qu'on est encore plutôt en retard sur les transports, enfin plein de choses, les voyages et tout. Ouais, je pense pas mal au transport parce que voilà, les bus, il faut des bus adaptés, les rampes marchent pas, ça tombe en panne, ou alors les chauffeurs savent pas les utiliser, du coup ils galèrent. Alors que bah, y a des pays où le métro est accessible. Alors oui, je sais, Paris, ce sera compliqué de rendre le métro accessible, mais on voit quand même que dans certains pays, ça marche, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a encore un peu de boulot là-dessus.
Donc oui, tu dis que le transport, ça te tient à cœur pour ton autonomie. Donc tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas pu forcément passer ton permis, mais après, du coup, tu as fini par l'avoir. Quelles ont été un peu les suites après par rapport à ça?
Eh ben ouais, ça a été un peu comme pour le sport quand même, où on me l'a un peu lancé en mode défi, en mode bon allez, c'est bon, maintenant tu fais plein de trucs, tu réussis plein de trucs. Je parle du crossfit notamment, et c'est bon, pourquoi tu te lances pas un challenge de plus et pourquoi tu repasses pas ton permis, quoi. Et donc il m'a fallu 10 ans, j'ai laissé passer 10 ans entre le premier essai et puis voilà, bon, entre les deux j'ai fait plein d'autres choses, hein. J'ai fait mes études, j'ai trouvé mon appart, j'ai essayé de vivre toute seule, ce qui était une grosse partie, donc je pouvais pas vraiment le faire avant. Et puis c'est vrai que ce petit coup de pied aux fesses de bon allez c'est bon, moi. T'as qu'à réessayer. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et puis, c'était en période Covid. Donc, en fait, je crois que ça m'a un peu aidée aussi de rien dire à personne, de faire ça un peu discrètement. J'ai repassé mon code à 28 ans en confinement, juste sur l'ordi. Et puis j'ai repris des leçons de conduite. Il y avait une auto-école qui était à nouveau adaptée. Enfin, il y en avait plusieurs. Et j'en ai choisi une et ça a marché. Donc pareil, ça prend du temps, mais voilà, il m'a fallu des mois. Enfin, ça a pris 3 ans entre le moment où j'ai commencé les démarches pour le permis. On parlait tout à l'heure des passages en préfecture et tout ça, donc il a fallu que je refasse tout ça. Et puis, il a fallu trouver la voiture, donc ça a été compliqué, d'autant plus en période de Covid. Donc il faut une voiture qui est grosse, parce que j'ai un fauteuil électrique et un fauteuil manuel, donc je voulais pouvoir mettre les deux, parce que par exemple pour le sport je vais plutôt être en manuel, et dès que je suis accompagnée je vais être en manuel pour pouvoir aller partout, même dans des endroits pas accessibles de base. Et par contre, pour être autonome au quotidien, dès que je sors, que je vais au travail ou que je vais faire des courses toute seule, j'ai besoin d'être en fauteuil électrique. Donc il fallait une voiture qui puisse cocher un gros cahier des charges, donc ça a été compliqué à trouver, il a fallu trouver les aménagements. Donc pour expliquer un peu, j'ai une plateforme qui permet de monter mon fauteuil en partie sur la porte coulissante latérale, donc on a fait électrifier la porte coulissante. La plateforme me permet de monter en fauteuil et ensuite je fais mon transfert à l'intérieur. Donc on a enlevé la banquette de rang 2, donc c'est un minivan en fait, un petit camion, mais j'appelle ça une voiture parce que c'est plus mignon. Donc on a enlevé les sièges et j'ai un fauteuil comme les camping-cars, en fait, qui se retournent pour que je puisse faire mon transfert et être au poste de conduite, sur le poste de conduite classique. Enfin, classique, pas si classique que ça. Parce que du coup, j'ai une poignée pour me permettre d'accélérer et de freiner à la main. Et donc, moi, c'est un système de poignée moto. Donc, on accélère comme une moto et quand on pousse le levier, ça freine. Et à mon pouce, je vais avoir les feux, les essuie-glaces clignotants. Donc, je fais tout avec les mains et je tourne le volant à une seule main. Donc, j'ai une boule au volant, un peu comme les camionneurs ou les tracteurs. Donc voilà, ça c'est l'ensemble de l'aménagement. ça coûte énormément d'argent. Pour donner une idée, la voiture seule m'a coûté 40 000 euros et j'ai 22 000 euros d'aménagement. Donc voilà, ça a été des mois et des mois de paperasse, de démarches administratives, et j'ai eu la chance que au final, après tout ça, les aménagements soient pris en charge. Mais faut se dire que voilà, c'est un projet que, bah, qui est compliqué à gérer, qui est long.
Et oui, t'as bataillé pour ton autonomie.
Ouais, c'était un peu l'objectif ultime. Ça y est, j'ai coché les cases de la to-do list. J'ai un travail, un appart et une voiture.
Génial. Bah, tu peux être fière de toi, en tout cas, vraiment.
Merci.
On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Ça fait presque déjà une heure qu'on papote. Ouais. Est-ce que, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a des choses, un message que tu voulais transmettre, quelque chose que tu voulais partager avec nous aujourd'hui?
Ben, je pense que c'est un peu ce qu'on a dit dans l'épisode, c'est qu'en fait, je pense que dans la vie, faut pas se mettre de barrières, en fait. Moi, il y a plein de choses et je suis encore comme ça. Je me dis toujours, ah, c'est impossible, ça marchera pas, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Et au final, on y va quand même et ça marche. Et donc, du coup, je me dis, mais en fait, si vous avez envie de faire un truc, faites-le, quoi. Et au pire, ça marche. C'est cette fameuse phrase, et le para, pour le coup, m'a vraiment apporté ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on me propose un truc qui me fait peur, ou je me dis non, c'est pas pour moi et tout, je me dis mais attends, la dernière fois que t'as failli dire non, si t'avais dit non, tu serais passé à côté de la passion de ta vie, quoi. Donc après, je vous dis pas à tous de sauter de tous les avions, et c'est pas obligé, hein. Moi je kiffe et c'est génial, et j'ai envie que les autres ils découvrent ce monde-là aussi. Mais en fait, c'est chacun son truc, mais juste, si on trouve un truc qui nous fait kiffer, ben on y va, quoi, et on profite surtout.
Très bien, génial, merci pour ce beau message en tout cas.
Merci.
On arrive aux questions de fin d'épisode. La première question, c'est: quel est ton endroit préféré en Mayenne? Une adresse coup de cœur, un lieu qui reflète ta Mayenne?
Eh ben, du coup, j'ai parlé déjà de deux lieux qui sont importants pour moi, du coup, le club de Laval Parachutisme et puis CrossFit Mayenne. Si je devais parler d'un lieu sur Laval, ou je pense pour sortir ou quelque chose comme ça, je dirais le bar La Canfranchia.
Très bien.
Je sais pas si tu connais.
Oui.
J'aime beaucoup l'ambiance et j'aime beaucoup les gens qui y sont. Donc je trouve que ouais, l'ambiance est chouette et puis c'est bon. Donc voilà, et puis la pina colada, c'est quand même sympa.
Génial, on partagera l'adresse sur le podcast. Et puis donc la deuxième question, c'est: quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'Alain Mayenne?
Alors, ça va peut-être paraître un peu étonnant parce que du coup on a le même nom, c'est ma cousine.
Très bien.
Maud Duverger, qui est une entrepreneuse et arboricultrice mayennaise. Et qui fait, elle a des vergers, elle fait des fruits, des pommes, des poires et plein d'autres. Et elle a aussi des produits, donc des jus de pommes et des confitures qui sont faits avec ces fruits. Donc je trouve ça plutôt cool d'avoir des produits locaux, et je dis pas ça parce que c'est de ma famille, mais voilà, pourquoi pas. Je pense que mon parcours peut être
génial.
Intéressant.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour ces bonnes adresses et ces partages. Merci aussi pour cet échange. Ça a été une très belle discussion.
Merci à toi.
Et puis à bientôt. Puis j'ai plein de belles choses pour la suite.
Merci beaucoup.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci!